Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour Conflit, bienvenue pour cette émission. Meilleurs vœux à vous tous puisque c'est la première émission de l'année 2024. Nous vous retrouvons aussi avec un nouveau numéro que vous pouvez retrouver en kiosque sur notre site internet revueconflit.com, un numéro dont le dossier est consacré à la guerre en Israël et à Gaza, avec, vous le verrez, de nombreuses cartes, des articles sur l'Iran, sur les États-Unis, sur les conséquences aussi pour la France et pour l'Europe, et puis en dehors du dossier, d'un article qui est consacré notamment à la question des déchets, à leur traitement, et puis une analyse aussi de l'Argentine parmi les autres articles que vous pouvez retrouver dans ce numéro avec également vos chroniqueurs habituels, à retrouver donc en kiosque et sur le site de Conflit. Il n'est pas trop tard pour offrir un abonnement à Conflit. Si vous avez encore quelques cadeaux de Noël que vous n'auriez pas réalisés, eh bien là aussi vous pouvez offrir des abonnements. C'est à la fois un beau cadeau et une manière de soutenir la revue. Cette semaine, nous partons justement en Israël où nous allons faire à la fois un bilan de situation et essayer d'esquisser quelques pistes pour ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois à venir, notamment avec la question du Hezbollah dont le rôle est important. On le voit, un Hezbollah qui continue à exercer une menace sur Israël depuis le nord d'Israël et sud du Liban où il est installé. On voit également une alliance parfois curieuse avec le Hamas et puis ces attentats qui ont eu lieu également en Iran revendiqués par l'État islamique. Donc beaucoup de choses qui sont en mouvement autour du Hezbollah et autour de l'Iran et c'est ce que nous allons voir cette semaine avec mon invité Gil Miraeli. Voilà, merci d'être revenu à ce micro, ce qui permet comme ça de réaliser des points de situation réguliers. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à d'autres émissions effectuées depuis maintenant 2 mois. Il y avait 2 ou 3 émissions pour faire une analyse régulière de ce conflit. Peut-être lorsque l'on parle du Hezbollah, rappeler ce qu'il est, pourquoi il a été créé et puis quelle est son idéologie, qu'est-ce qui le distingue d'autres mouvements que l'on a dans la région.
Donc, tout d'abord, le Hezbollah est l'émanation de la sociologie libanaise. C'est une organisation qui est née dans le contexte de la guerre au Liban, 1982, dans le sud du Liban, et notamment au sein de la population chiite de ces pays, qui est un petit peu le parent pauvre, l'associé pauvre du pacte libanais, où c'était les chrétiens et les sunnites, et plutôt les gens qui habitaient la montagne du Liban et les grandes villes, qui ont eu le poids politique, voire l'hégémonie dans les institutions, pendant les quelques premières décennies de l'histoire de Liban en tant que pays indépendant. Donc dans le désordre qui a été créé par la présence palestinienne, la guerre civile, l'invasion syrienne et puis l'invasion israélienne de 82, en quelques années, ces bouleversements ont permis l'émergence de cette force, essentiellement fondée sur des liens étroits avec Téhéran, donc sans la révolution de 78-79 en Iran, probablement on n'aurait pas pu voir le Hezbollah, il y aura eu peut-être, voire probablement, un autre phénomène politique, sociologique, peut-être militaire, chiite au Liban, mais pas le Hezbollah. Donc, c'est d'un côté une force très libanaise, même si c'est l'une des communautés libanaises et pas toute la nation. C'est une force aussi qui a sa base assez clairement dans le sud, donc le long de la frontière israélienne, un petit peu vers le nord jusqu'à la rivière Litanie, voire un petit peu plus au nord, et dans la région de Baka, Baalbek. Et en même temps, c'est une force intimement liée, pas vraiment avec l'Iran, comme avec le régime de Mollah, la République islamique et chiite. Et c'est d'ailleurs sa force, c'est aussi sa faiblesse, comment faire converger les intérêts nationaux dans une force libanaise et le fait que cette force est aussi au service des intérêts stratégiques d'une puissance étrangère qui n'a pas toujours les mêmes objectifs que le Liban.
Et quels sont les objectifs du Hezbollah, justement? Est-ce que c'est prendre le contrôle du Liban, prendre la direction du Liban, ou est-ce que c'est de servir un peu de proxy ou de supplétif à l'Iran?
C'est une excellente question qui expose la contradiction qui est à la base de l'existence de ce mouvement. Justement, est-ce qu'elle peut prétendre transformer les Libans en république islamique chiite, comme l'Iran? Parce que du point de vue idéologique, du point de vue religieux, le Hezbollah, donc le parti de Dieu, est un parti qui est une sorte de parti sœur de la mouvance hégémonique et au pouvoir à Téhéran. En même temps, on sait que les chiites, même si c'est probablement le groupe le plus important, les chiites ne sont pas majoritaires. Précisons aussi que les chiites ne sont pas 100% derrière le Hezbollah. Il y a un autre grand parti politique qui s'appelle Amal, et dont le président est le président de parlement, Nabi Haberi, et le président perpétuel presque de parlement libanais. Pour rappel, le poste clé au Liban sont partagés selon une clé d'appartenance communautaire. Donc le président de parlement est chiite, le premier ministre est sunnite, et les présidents et les chefs d'état-major sont chrétiens. Donc, le Hezbollah n'a pas la majorité politique et sociologique au Liban, et ses objectifs ne sont pas toujours en accord avec ce qu'on peut définir comme les intérêts nationaux du Liban en matière de politique étrangère. Juste pour rappeler, la Syrie était une puissance occupante étrangère au Liban, qui a été chassée après l'attentat contre Hariri en 2005. Et malgré cela, et malgré le fait qu'il n'y avait pas de décision du gouvernement libanais de le faire, le Hezbollah s'est engagé aux côtés de forces d'Assad pour défendre les régimes qui étaient, quelques années auparavant, présentés comme un ennemi ou un adversaire important du Liban. Et donc on a une milice, un parti politique, qui est en politique étrangère et en géostratégie complètement indépendante de celle de gouvernement libanais.
Le Hezbollah a soutenu le régime de Bachar al-Assad, alors même qu'ils ne sont pas du tout de la même religion, Assad et Alaouite, c'est très très différent déjà de l'islam et du chiisme, et effectivement que la Syrie avait été un opposant au Liban. Donc ce soutien a quand même beaucoup surpris.
Oui, et c'est justement, c'est quand on se souvient que le Hezbollah est un proche allié, c'est pas un valet de chambre, mais c'est un allié de l'Iran, qui partage donc les objectifs iraniens en matière de géopolitique, en matière de politique régionale, et notamment, on peut voir que les ennemis de l'Iran sont les ennemis de Hezbollah, et les alliés de l'Iran sont les alliés de Hezbollah. Au-delà des clivages communautaires ou religieux par ailleurs. Rappelons que le Hamas est une émanation de frères musulmans, c'est-à-dire que c'est aussi un mouvement de sunnites. On peut rappeler aussi que en 2012 ou 2013, le Hamas s'est retrouvé dans le mauvais côté de la guerre civile en Syrie par rapport à Assad, parce que, comme beaucoup de Palestiniens, et surtout de Palestiniens de la mouvance de Hamas, donc des sunnites, donc de frères musulmans, il était plutôt du côté des rebelles, des gens de Homs, d'Alep et d'autres villes, qui après étaient pris par par des islamistes sunnites. Et donc, le Hamas a soutenu le rebelle contre Assad, les rebelles sunnites contre Assad, a subi le foudre du régime, y compris les Palestiniens. Il y avait un énorme massacre dans le quartier de Yarmouk, c'est un ancien camp de réfugiés pas loin de Damas, qui a été éliminé par la Syrie. Et les gens de Hamas, les leaders de Hamas qui s'abritaient en Syrie quand l'intérêt était de servir comme arme contre Israël, sont devenus les ennemis et ils étaient chassés de la Syrie, ce qui n'a pas empêché ni l'Iran ni le Hezbollah de renouer avec le Hamas en 2016-2017 quand c'était clair que Assad allait gagner la guerre civile pour retrouver les alliés dans l'alliance contre Israël, qui, de nouveau, n'est pas l'intérêt numéro un du Liban, mais c'est l'intérêt le plus important de Téhéran.
Est-ce qu'on arrive à mesurer la puissance militaire réelle du Hezbollah? Comme souvent, il y a le mythe, il y a l'image et la représentation. D'ailleurs, ils sont très doués pour la communication. On se souvient de leur dirigeant qui avait annoncé faire un discours important. Ça avait créé une tension. On avait attendu évidemment le discours qu'il allait faire le vendredi pour savoir s'il allait se ranger du côté du Hamas, soutenir le Hamas et attaquer Israël ou non. Mais au-delà des symboles, des représentations, quel est l'état militaire? Est-ce qu'ils ont des chars? Est-ce qu'ils ont... une maîtrise du cyber? Quel est l'état de leur infanterie, de leur artillerie?
Alors, ce qu'on peut dire de Hezbollah, c'est que c'est une organisation très efficace militairement, dans le sens où, avec relativement peu de moyens, mais avec une réflexion politique et stratégique très claire et un lien très étroit entre moyens militaires et objectifs politiques, cette organisation est arrivée à atteindre des objectifs stratégiques très importants. Commençons par le commencement. Donc 82-83, le Hezbollah fait son apparition fracassante, même si à l'époque était clandestine, avec une série de 3 attentats suicides contre un QG israélien en novembre 82 à côté de la ville de Tyr, et après contre le poste de commandement et les casernes de forces françaises et de forces américaines, donc Drakkar et la base de Marines des États-Unis, et avec en kamikaze, une voiture bourrée d'explosifs. Et ils sont arrivés à pousser dehors les Français et les Américains, ce qui en termes de rendement est extraordinaire. Avec Israël, c'était un petit peu plus compliqué et long, mais après les départs de l'ELP négociés avec Israël en 82-83, les Hezbollah restaient la force principale de résistance à Israël. Et cela a fini par une longue guerre d'usure, aboutissant à un retrait israélien unilatéral non négocié du Liban au mois de mai 2000, qui est considéré comme une victoire de Hezbollah. Et donc ça, c'est une caractéristique de cette organisation, cette adaptation entre le moyen et les objectifs, et le fait qu'avec des moyens relativement faibles, ils arrivent à atteindre des objectifs assez ambitieux. En même temps, ils ne sont pas restés, disons, ils ne sont pas reposés sur leur laurier. Et dans un état failli qui est le Liban, ils ont créé un état dans l'état qui a fini par être doté dans les années 90, surtout grâce au soutien iranien en argent, en moyens, en entraînement, en doctrine, à devenir une milice dotée d'armements qu'on peut qualifier de quasi-étatiques, et notamment des missiles et des roquettes. Donc, juste pour faire vite, la différence entre missile et roquette, c'est que missile, c'est une roquette qui peut changer son trajectoire après les lancements et donc corriger le trajectoire et devenir une arme de précision. Tandis que une roquette, c'est un projectile qui vole comme un obus. Donc, à partir du moment où le projectile a été lancé, uniquement les forces de la nature, la température, la vitesse, évidemment, les designs de projectiles peuvent avoir un effet sur les trajectoires. Et donc, plus la portée est importante, moins la précision est grande. Et donc, on tire sur 100 km, on peut avoir une erreur de plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres. Donc, ce n'est pas une arme de précision dans la portée. Dans la portée. Et donc, ils ont à la fois des missiles et des roquettes, un nombre assez important, y compris des missiles sol-mer. Et on se souvient de l'incident dans l'été 2006, où ils ont touché, ils ont pas coulé, mais ils ont touché une frégate israélienne qui patrouillait au large de Beyrouth. Ils ont aussi de missiles sol-sol avec une tête explosive importante de centaines de kilos et un niveau de précision assez important qui couvre avec des portées de plusieurs centaines de mètres, donc qui couvre toutes les agglomérations israéliennes, mais aussi les centrales, les ports, les deux ports principaux, l'aéroport, les bases aériennes, autres bases importantes de l'armée israélienne, ainsi que des infrastructures comme de raffineries ou des échangeurs autoroutières ou des dépôts importants de carburant, des munitions, d'alimentation, etc. Et donc, ils ont des moyens stratégiques. Ces dernières années, ça nous semble normal, mais c'était rare au XXe siècle d'avoir des organisations terroristes avec une certaine capacité de guérilla, qui est de l'infanterie légère, s'est dotée des moyens qui étaient considérés jusqu'à il n'y a pas longtemps comme étatiques, notamment depuis très peu d'années, les drones. On voit aussi chez les Houthis, Donc des drones qui volent, mais aussi les drones maritimes. Ce sont des capacités qui sont rendues accessibles parce que la technologie est plus simple à utiliser et parce que le prix est moins élevé. Donc ça, c'est cette première dimension. Ensuite, ils ont aussi une sorte de grande armée des terres, plutôt des fantassins, qui a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de protéger les moyens de lancement, parce que justement, ils n'ont pas d'armée d'air, et ils ont des moyens sol-air relativement limités. Et donc, ils sont exposés à l'aviation israélienne, à la fois pour les renseignements comme pour la frappe, les attaques. Mais on sait déjà que l'aviation seule ne peut pas arrêter les tirs. Les lanceurs, c'est pas des lanceurs, donc les pieds de lancement, les postes de lancement sont très bien camouflés. C'est difficile de le repérer. Souvent, le tir est un processus qui dure très très peu de temps, donc des portes qui s'ouvrent, quelque chose qui est complètement dans la nature. En Israël, on appelle ça les réserves naturelles. Et donc, en une minute, deux ou trois, c'est tiré, c'est camouflé et c'est difficile de repérer. Donc, pour éradiquer, éliminer les capacités des tirs sol-sol, il faut envoyer des fantassins, il faut envoyer des forces terrestres. Et donc, le Hezbollah a des unités dont le rôle est de aller en rencontre de forces israéliennes et les protéger leurs moyens, leurs dépôts et leur base de lancement, et plus généralement de se battre contre une armée israélienne qui viendrait éliminer les capacités militaires stratégiques de Liban. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est une force offensive qui s'appelle Radwan. On les a vus en action en 2006. C'est eux qui ont mené l'opération qui a abouti par la capture de 2 soldats morts et ensuite, ça a eu comme conséquence la guerre de l'été 2006. Et donc, leur rôle est de faire quelque chose qui ressemblerait au 7 octobre, c'est-à-dire envahir le territoire israélien, attaquer les postes militaires, prendre de villes et des villages, prendre des otages, faire un carnage, rester sur place aussi longtemps que possible pour perturber la capacité israélienne de mobiliser et de s'organiser pour mener une guerre à l'intérieur du Liban et globalement mener la guerre dans les territoires de leur ennemi qui est Israël. Donc ils ont probablement des tunnels et des capacités souterraines à se développer. Ils ont probablement des forces maritimes de gens en commando. Ils ont très probablement des forces aériennes légères de capacité de projeter des combattants par les airs sur quelques kilomètres. Et peut-être d'autres moyens. Ils sont très mobiles avec des motos, avec des voitures 4x4 légères, de quads. Voilà, donc c'est à peu près, pour parler chiffres, on estime qu'ils ont à peu près 5000 militaires, tout compris. C'est difficile de savoir combien sont organisés en unités combattantes prêtes à s'élancer des mains. Les forces Radwan, c'est probablement un cinquième de leur force totale. Pour ce qui concerne le missile et les roquettes, il s'agit de plusieurs dizaines de milliers, probablement plus de 150 000, dont la plupart, plus que la moitié, sont relativement de courte portée, c'est des Katyusha pour aller vite, 10-15 km, donc ça permet de harceler les nord et rendre la vie civile et économique impossible. mais ils ont aussi quelques dizaines de milliers de roquettes et de missiles de portée plus longue, y compris des missiles donc aussi de précision. Et d'ailleurs, l'amélioration de la précision et la portée fait l'objet d'un effort stratégique qui dure depuis très longtemps, qui est poussé par les Iraniens. Donc on sait que, par exemple, pour les bombes aériennes, la plupart des armées de l'air ont des bombes aériennes à fragmentation, donc des bombes qu'on appelle à usage général, des 250 kg, 500 kg, 1 tonne, mais ce sont des bombes qu'on a stupides. Donc c'est des bombes qu'on balance, qu'on largue, pour aller vite, à peu près comme la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment des écarts entre la cible et les impacts, et un effet statistique. Pour toucher une cible, il faut larguer plusieurs de ces bombes. Donc, depuis quelques décennies, il y a des moyens de rendre ces munitions précises. Globalement, il s'agit de mettre sur ces bombes une sorte de kit avec des ailerons et avec une tête pensante. Et par exemple, on peut programmer par un GPS, on peut programmer un endroit, larguer la bombe d'une certaine manière qui lui donne l'énergie nécessaire, et après, il y a un mécanisme qui va calculer l'emplacement de l'engin et avec GPS, l'emplacement de la cible, et de donner aux ailerons des commandes pour changer les trajectoires de la bombe, rendant la bombe stupide en munition de grande précision. Il y a la même logique qui existe pour des roquettes de Hezbollah et autres. Et l'une des raisons pour laquelle Israël mène des campagnes de bombardement en Syrie depuis très très longtemps, c'est justement pour lutter contre ces projets de précision et d'amélioration. Les Iraniens ont d'abord essayé de faire advenir le kit. Israël les a attaqués en Syrie. Après, ils ont essayé de créer des ateliers en Syrie. Donc, il y a plusieurs stratégies utilisées pour aboutir à un objectif qui est de rendre l'arsenal de Hezbollah surtout beaucoup plus précis. Ce qui va évidemment saturer les moyens de défense d'Israël, notamment le dôme de fer ou les autres systèmes pour des missiles de plus longue portée, parce que quand on tire de roquettes de style de Katyusha, la plupart, très vite, on voit qu'ils ne vont pas attendre même la proximité de la cible. Mais si toutes ces roquettes sont devenues des missiles, il faut les abattre toutes, il faut envoyer plus de missiles d'interception, et les systèmes aussi sont saturés par la gestion de plusieurs cibles pertinentes. Et donc il y a un enjeu énorme qui est quel est l'état technique, quel est l'état de précision de l'arsenal sol-sol de Hezbollah.
Dernière question, Gil Mihaili, quand on voit aussi à travers le Hezbollah la question de ce rapport entre état d'un côté et organisation de l'autre. On voit qu'au Proche-Orient, on a des États qui sont malgré tout, enfin qui existent, mais qui ont pas mal de faiblesses, et des organisations qui sont peut-être plus nébuleuses, comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme d'autres, mais qui tiennent des territoires et finalement deviennent, de cette manière, de sorte d'État, avec une administration, avec une fiscalité, avec un drapeau.
Oui, c'est probablement le problème géopolitique, le phénomène géopolitique le plus important au Moyen-Orient. La dernière guerre du système géopolitique ancien, c'était la guerre de 73 entre Israël d'un côté et les États d'Égypte et de la Syrie de l'autre côté. C'est effectivement la guerre qui a mis fin aux guerres entre États, au moins pour ce qui concerne le conflit israélo-arabe. Sauf que très vite après, les années 70, on a vu la montée de terrorisme palestinien. À l'époque, c'était l'OLP, donc c'est la grande époque de. Donc, Munich, c'est 72. Les détournements des avions ont commencé un petit peu avant, mais les grands attentats en Israël commencent en 74 et durent jusqu'à 79, 80. Et c'était fait à partir, au début, en état qui a failli être failli, qui est la Jordanie. Il a fallu que le roi Hussein prenne des mesures drastiques pour se battre contre les Palestiniens qui ont essayé de créer un État dans l'État jordanien. Et quand l'OLP a été chassé du Liban, de la Jordanie, la Syrie ne permettait pas de créer en sorte de Fatahland, en zone non contrôlée par les gouvernements en Syrie, mais en Liban, là où le gouvernement était faible, à partir de 68-69, s'installe pour la première fois une milice au sein d'un État failli. Et depuis, on voit la guerre de 82, c'est la même chose. Et aujourd'hui, si on regarde d'où viennent les problèmes d'Israël, c'est d'abord le Liban avec le Hezbollah. Donc on sait déjà que depuis au moins 1976, il n'y a pas véritablement d'État au Liban. Il y a des problèmes avec la Syrie. On sait que depuis 2011, il n'y a plus d'État en Syrie, que c'est aussi un État failli, avec des forces extérieures. Qui utilisent ces pays comme une plateforme pour mener leur stratégie, c'est les Yémen avec les Houthis aussi. On sait que le Yémen est un État failli. Des problèmes avec l'Irak, qui n'existe plus, au moins existe en tant que nom et désignation géographique. Et donc on voit que si l'Iran est la force qui agrège et qui donne des moyens et une stratégie dans cette grande alliance contre Israël, sans ces marécages géopolitiques, sans ces États faillis où des forces sous-étatiques peuvent s'installer et peuvent créer des territoires, transformer des territoires en plateforme de guerre contre Israël, la stratégie iranienne n'aurait pas pu être aussi efficace. Et avec une évolution, sinon une révolution technologique, qui permet à ces milices, que ce soit le Hezbollah ou le Houthi, ou les Palestiniens, d'avoir des armes stratégiques, notamment des missiles sol-sol, peut-être des mines solaires, sol-mer, et des drones, les dotant des capacités extrêmement importantes. Et on voit à quel point les Houthis arrivent à perturber les commerces maritimes internationaux, finalement avec relativement peu de moyens.
Merci beaucoup, Gil Mehrelli, pour cette présentation du Hezbollah et des incidences et conséquences pour la région. Beaucoup d'autres éléments sont à retrouver dans le numéro de conflit qui est actuellement en kiosque, Israël, la guerre sans fin, notamment une analyse comparée de la stratégie du FLN et du Hamas, ainsi qu'un article consacré à la question des régions en Europe. Un numéro à retrouver en kiosque et sur notre site internet. Et puis, je ne peux que vous inviter à vous abonner pour ceux qui nous écoutent régulièrement et qui ne seraient pas encore abonnés à Conflit. En vous abonnant, vous soutenez la revue, vous permettez à Conflit de se développer. Conflit ne vit que par ses lecteurs en kiosque et ses abonnés. Donc, vous abonner, c'est permettre à Conflit de continuer à exister et de continuer à vous proposer ses analyses géopolitiques. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.